D'ici. Et d'ailleurs.
D'ici et d'ailleurs.
La revue culturelle
de Léo Géo.
Dans ce mag d'ici et d'ailleurs, nous prenons la direction de la Martinique. Une Martinique vécue et racontée dans les profondeurs de sa psyché, son histoire, son présent, en un livre quelque peu stupéfiant, voire éprouvant, avec une magnifique écriture. L'histoire qui vous attend est loin d'un conte à l'eau de rose. Ambiance.
Je veux tout péter. Joaline, tu me connais, Joaline. T'as vu comment mon cœur va vite là, Joaline. T'as vu comment je crie là, Joaline.
Mon cœur bat vite. Je vais tout péter. Mon cœur bat vite. Je vais tout péter. Mon cœur bat vite.
Nadia Chonville, bonjour.
Bonjour.
Votre livre s'intitule « Mon cœur bat vite », paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Vous avez choisi comme premier morceau que j'ai mis en introduction ce... Cet extrait musical, c'est quoi la petite histoire ?
Mais oui, en fait, je me suis dit, bon, mon cœur bat vite, c'est un titre qui peut résonner un peu de façon un peu romantique, je sais pas, chez le lectorat de l'Hexagone ou d'ailleurs, mais qui tout de suite en fait fait réagir quand on est en Martinique, quand on est dans la Caraïbe, parce que quand on dit mon cœur bat vite en Martinique en ce moment, depuis quelques années, tout de suite après. C'est comme une ritournelle, en fait, comme les répondeurs dans nos chants, on répond « je vais tout péter ». Parce que c'est en référence à cette musique-là qui est sortie, c'était en 2015, en fait, qui part d'une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où on voit un homme en colère qui parle à une femme que l'on n'entend pas. Et ça, c'est vraiment les premières choses qui m'ont marqué dans la construction des premières idées du roman. Et puis après, c'est ce mix qui a été fait à partir de cette petite vidéo avec la voix d'une enfant. Et suivi des bruits des mitraillettes, ça, c'est à partir de là, beaucoup de choses se sont mises en place.
Mon cœur bat vite, je suis sous pression, je pourrais le traduire ainsi.
Je suis sous pression, même pas en fait, vraiment je vais tout péter. Et je crois que ces mots-là, mixés, ces mots-là, ils ont vraiment mis un vocabulaire sur une émotion, sur des sentiments, sur un ressenti qui traversait et qui traverse encore la société martiniquaise.
Dans une Martinique contemporaine, page 102, voilà comment s'exprime votre protagoniste sur la situation qu'il vit. La bande crache sur le bitume, sa rage d'être là, sa colère contre tous ces politiciens inutiles, incapables de construire un réseau de bus correct, contre toute cette bande de parasites sous perfusion qui sucent les impôts de leur maman pour construire une piscine, mais qui ne savent pas mettre de l'eau dans tous les robinets. Là, les jeunes gens se jurent sur un bord de route brûlant de ne jamais, jamais revenir sur ce caillou où on crève la gueule ouverte avant de voir passer un bus où l'on paye un salaire en ticket trajet chaque mois pour le luxe d'aller étudier des trucs qui ne servent à rien et qui ne rapportent pas d'argent dans une université vide, etc., etc. Il était une fois Kim, une enfant du pays, née fille, se sentant garçon, coupable d'infanticide, animée par les voix des ancêtres, en croisade pour purifier sa lignée, au prix d'actes d'extrême violence, justifiés par son constat lucide, comme celui peut-être que on vient d'écouter dans cette lecture, de la dégénérescence de la société dont il est issu. C'est un récit donc captivant de notre invité, vous, autrice Nadia Chonville. Ça a lit suspense. Pourquoi a-t-il fait cela ? Cet infanticide et magnifique description d'un pays que vous connaissez bien, en nous faisant respirer les sons, les paysages du quotidien du personnage principal Kim, les paroles pays, je dirais, en français, de temps à autre en créole, et puis aussi les tendres souvenirs familiaux. Je vous découvre, et ce n'est pas votre premier roman, puisque vous avez déjà publié plusieurs ouvrages, dont une trilogie, c'est ça ?
Oui.
Entre 2005 et 2015.
Alors c'est vrai qu'aux Antilles, on a beaucoup la pratique de l'auto-édition, parce que le marché est un peu particulier, petit. Et donc c'est vrai que quand on dit premier roman, on le dit souvent pour Mon cœur bat vite. Je pense que d'un point de vue éditorial, du point de vue de la profession, on va dire, c'est mon premier roman, parce que c'est le premier roman édité dans une maison d'édition. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme tel aussi, parce que Rose de Végastri, c'était le premier roman que j'ai écrit, que j'ai produit.
L'histoire d'une gitane ?
Oui, non, c'était l'histoire d'une...
Pas d'une martiniquaise.
Pas d'une martiniquaise, mais cela dit, bon, ce serait long à vous raconter, mais l'affaire est quand même importante.
Prochaine fois.
Une autre fois. Mais en fait, c'était un roman de fantasy, c'est une saga de fantasy. D'ailleurs, je continue à écrire dans le domaine des imaginaires. Je travaille beaucoup sur la question de l'afrofuturisme et tout, avec Michael Roth notamment, ou Lorraine Safou, voilà. Donc, c'est pas un domaine que je laissais de côté, complètement. Mais en tout cas... publié un roman aux éditions Mémoire d'Encrier avec René Saint-Éloi, avec Yara. Enfin, c'était vraiment entrer dans la carrière littéraire. Et par rapport à ce que j'ai toujours voulu, finalement, je vis vraiment le moment comme mon premier roman.
Donc, je disais que vous aviez commencé à écrire très jeune. On vous présente maintenant comme la nouvelle génération des écrivains antillais à la suite de, attention, Césaire, Chamoiseau ou Confiant. Qui devrais-je ajouter de Martinique ou d'ailleurs parmi les ceux ou celles qui ont pu vous inspirer ?
Quelques femmes, je pense, quand même, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire une litanie masculine. Et puis bon, après, c'est vrai qu'à le côté éditorial, on en fait toutes des pompes à dire les grands Césaire, les machins. Bon, moi, je préfère me placer aussi à côté de mes contemporaines et de mes contemporains. Il y a les sœurs Canor, notamment Fabienne Canor, qui pour moi est parmi les autrices martiniquaises de présente et fondamentale. Aussi Véronique, qui est extraordinaire. Et puis, parmi les autrices qui m'ont marquée, qui m'ont peut-être montré qu'une femme noire caribéenne peut avoir une carrière d'écrivaine, être reconnue comme une écrivaine. Mais il y a aussi Nicole Cage, une poétesse martiniquaise qui tourne partout dans le monde et qui n'est pas très reconnue dans son propre pays. Voilà, c'est des figures importantes. On a Suzanne Dracus, on a Maryse Condé. Enfin, franchement, la liste, elle est
en
super longue.
En ce moment, dans un autre genre, enfin, on parle beaucoup, enfin, peut-être des sœurs Nardal.
Oui, oui.
Qui... salon littéraire.
Ben ça aussi, ça m'a inspirée. Oui.
À Paris.
Tout à fait, parce qu'en Martinique.
Histoire méconnue qui maintenant est dévoilée.
Ah ben oui, mais moi, ça m'a beaucoup inspirée parce qu'il se trouve qu'en Martinique, bon là, ça a été un peu interrompu par le Covid et puis par plein de petites choses, mais ça, je vais le reprendre bientôt. J'ai monté un salon qui s'appelle Le Foutoir, que j'ai monté à côté d'un autre auteur super important pour moi parce que c'est aussi un grand ami, c'est Alfred Alexandre. Et donc, chez moi, je reçois régulièrement un salon d'artistes entre artistes et on discute, on crée, on débat. Donc, et ça, je le place vraiment, pour moi, je le vis comme un héritage des sœurs Nardal, cet espace de création et de production intellectuelle et artistique.
Nadia Chonville, vous êtes née en 1989, vous l'avouez.
Ben oui.
Vous êtes docteur en sociologie, prof toujours, oui, d'histoire et géographie au lycée, dans un lycée,
oui, lycée
à Fort-de-France.
Victor Schoecher, ouais.
D'accord. Et vous vous intéressez particulièrement aux réflexions sur le genre. Vous avez eu d'ailleurs comme sujet de votre thèse « Vers une reconstruction de la fiction hétéronormative dans le système scolaire martiniquais ».
Vers une déconstruction, oui, du système hétéronormatif.
Ah oui, j'ai dit reconstruction.
C'est un lapsus intéressant. C'est un lapsus intéressant.
Mais encore.
Eh bien, en gros, moi, je travaille beaucoup sur l'homophobie et le sexisme dans les espaces caribéens. J'ai participé à un groupe de recherche qui s'appelle Genre et société dans la Caraïbe. Donc, on est tout un groupe qui travaille sur ces questions avec des personnes, des femmes et aussi quelques garçons formidables, comme Joël Kabil. On a aussi Nadine Le Faucheur. Enfin, bon, la liste est super longue. Roger Cantacuzène, voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, j'en ai l'héritage aussi de continuer certaines recherches. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le harcèlement de rue et la place des femmes dans l'espace public en Martinique. Et puis, de faire du plaidoyer aussi. C'est-à-dire que je passe moins de temps à faire de la recherche en ce moment, mais beaucoup plus de temps à diffuser et à conseiller aussi les pouvoirs publics pour l'amélioration de la situation.
C'était important pour vous d'insérer donc dans votre récit l'incompréhension qui accompagne les personnes transgenres. Reliés souvent aux croyances locales.
Il y a un personnage transgenre.
À la sorcellerie ou au démon.
On a un personnage, l'un des personnages principaux de mon roman, qui est un garçon transgenre. Cela dit, ce n'est pas le propos du roman, c'est juste que c'est son identité. Et ça fait partie de l'histoire et c'est quelque chose qui s'est construit de façon assez naturelle pour moi. Je crois que dans cette affaire-là, c'est la seule chose qui a vraiment eu un rôle avec ce que j'ai pu, mes sujets d'études ou mes travaux de recherche, c'est simplement aussi que quand on est écrivaine, on raconte la réalité que l'on traverse et c'est quelque chose qui appartient à ma réalité. Donc,
vous faites quand même parler les voisines.
Oui,
les voisines sont
sûr.
Formelles, elles oui. disent c'est qui cette erreur de la nature, ce pervers, ce monstre,
oui.
cette raclure, cette dégénérée, cette traitée, c'est Djabselman Kikakoumandeyo.
Exactement. Parce que
en créole, c'est le diable seulement.
C'est ça. Ça fait partie de la réalité.
Qui commande.
Ça fait partie de cette réalité. Ça aurait été une femme cisgenre que j'aurais aussi parlé du fait qu'on l'a traitée de walpa, de pute, de tout ce que vous voulez, parce qu'elle a marché. Seins nus lors du carnaval, par exemple. Enfin, c'est juste que là, vous parlez de ce passage-là, c'est un passage qui montre les violences de genre que l'on peut subir dans un territoire profondément conservateur. Mais je tiens à préciser, parce que c'est pas évident quand même de se dire qu'on crée un personnage trans, je ne sais pas s'il y en a déjà eu dans la littérature martiniquaise, et que c'est un assassin. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup posé question, à tel point que j'ai hésité à le faire à un moment, en me disant oui, je ne suis pas une personne directement concernée. Et je ne voudrais pas que ce soit un problème. Et donc, du coup, j'ai fait lire le roman au cours de la création par des camarades et notamment par un ami qui est concerné pour m'assurer qu'il n'y avait rien qui puisse vraiment être problématique.
Vous voulez dire ouais. qu'on pourrait penser que son mal-être de transgenre dans cette société le mène aux actes qu'il va faire et ce n'est pas vraiment le cas.
Je pense que c'est quelque chose. Mais j'essaie de me projeter dans la fiction en fait. Et dans cette fiction-là, là, le passage que vous avez eu, c'est le moment où les gens commencent une espèce de chasse à l'homme. Voilà, se dire il y a un assassin dans la nature, etc. Et je suis absolument persuadée que quand on est dans une société homophobe, transphobe, eh bien, des crimes qui soulèvent la colère, l'indignation, la soulèvent d'autant plus, avec une plus grande acuité, quand ils concernent des personnes que l'on disqualifie socialement.
Ce qui m'intéressait, c'est comment c'est relié au phénomène démoniaque.
Oui.
Parce que ça, ce que vous décrivez beaucoup d'ailleurs dans ce livre, cette référence bien, à l'au-delà, oui. C'est encore très présent.
Mais c'est très présent, mais cette référence-là, de le voir comme quelque chose de démoniaque, c'est une référence qui, dans le livre, par exemple, dans le passage que vous avez là, vient aussi d'une formation coloniale, d'une vision des choses qui a été apportée aussi par un système de domination. Et c'est bien placé dans le roman comme tel, c'est-à-dire que les personnes qui portent ce propos ne sont pas des personnes qui sont dans une démarche d'émancipation. Et donc, à contrario, en fait, dans l'entourage de Kim, dans le vécu de Kim, dans tout ce qu'il a autour de lui, il y a son identité et va de soi, que ce soit auprès de ses amis au début de sa transition, que ce soit sa mère dont on dit elle a toujours su que c'était un garçon. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas c'est quelque chose qui dans sa lignée et dans le monde dans lequel il évoluait pouvait exister sans que pour autant c'est-à-dire qu'il a pour autant aussi été affecté directement par le fait qu'ils grandissaient dans une société transphobe et homophobe. C'est une réalité. Mais les deux réalités sont capables de cohabiter. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est tous les paradoxes qu'on a dans notre société qui nous donnent aussi, heureusement, dans tout ça, des options d'espoir et de transformation.
Il y a une autre réalité, celle de l'esclavage et comment elle s'est transmise, notamment dans ce livre. On en parle juste après un morceau que vous avez choisi aussi, qui est le bois brûlé de Jeanne Monnat. Oui.
Mwen leve le matin ou mwen ka pran bout kòd la mwen ka mare le mwen pou mwen ay fè tre mwen y gade son y mou mwen ou le 6è mwen fini mwen ka pran gòn ou a mwen ka leve tye mwen pou mwen mande kouaj à la divinité. Oh. Oui, bébé, moi, manier pour moi pas ça senti. La misère, moi, oh, oh. La misère, moi. Bon Dieu, fais-moi pour ça. Il bat moi en bras brûlé. Il bat moi et m'en bien résistant après les exploitants. Oh, m'en pas belle, ni pas belle, compagne-moi. Nous pas faites pour le luxe, pas même pour le calice. Nous n'y doit être admis d'après ça, moi, quand oh. Et m'en qu'attend, et ça, l'histoire qui t'ébat nos vieux frères. Dans les archives, oh, oh, dans les archives. Non, nous savons filer, chez nous pas différents. Bon Dieu, fais-nous pour ça, il gaba nous.
Bois brûlé du Martinique Eugène Monnat sur Radio Nova, un morceau choisi par notre invitée, l'autrice du livre Mon cœur bat vite, Nadia Chonville. Eugène Monnat, dans votre roman, c'est la maman qui aime bien, je pense, cet artiste.
C'est Kim. Kim. Bah, je pense que c'est un artiste aimé dans toute la famille, dans tout le quartier, dans tout le pays. Et oui, oui, qui est un artiste majeur, martiniquais.
Et bois brûlé, qu'est-ce qu'il... C'est bois brûlé ?
Oui, nous, c'est bois brûlé, en fait. C'est une chanson qui parle de notre corps, qui parle de notre histoire, qui parle de cet héritage et qui construit, en fait, une fierté autour de cela et qui fait vibrer en fait considérablement, que ce soit par rapport à la flûte des mornes, mais aussi on sent en fait à la fois la fierté et l'ordre de bataille. Là, vous entendiez derrière la flûte des mornes, on a comme les percussions qui ont quelque chose d'une marche aussi. Voilà, Ce qui fait que c'est une chanson de recueillement, de mémoire, mais aussi de revendication. C'est pas une chanson tournée vers le passé, c'est une chanson qui permet d'entrer en soi, d'explorer cette intériorité et aussi de construire, qui donne la force en fait de construire le futur.
Et dans votre roman, cette fierté, cette marche, on la retrouve à travers celle du carnaval.
Exactement.
C'est totalement contemporain, une très belle page voilà, où vous en parlez. Alors dans ce roman, Kim et sa sœur Edith sont les héritiers adultes de plusieurs générations de femmes qui continuent de les visiter. Vous les appelez les souffles. Vous commencez d'ailleurs votre roman avec un extrait de ce poème de Birago Diop. Le souffle des ancêtres, les morts ne sont pas morts.
Listen more often to things than to human beings. Hearken to the fire's voice and to the water's sound. Listen to the sobbing of the wind-tossed woods. It is the breathing of the ancestors. Those who are dead are never gone. They are in the brightening shadow and in the thickening gloom. The dead are not beneath the ground.
Les morts ne sont pas morts. C'est ce texte, pour moi, a été comme une espèce de texte sacré qui m'a accompagné depuis la mort de Césaire, je pense. On l'a beaucoup dit, on a dit ce texte et il résonnait en moi. Moi, j'étais étudiante à Grenoble, j'étais loin, triste, je comprenais pas ce que je faisais là, loin de tout ça, alors que ça m'affectait beaucoup. Et ce texte-là m'a tenue et je me suis rendu compte, j'y croyais en fait comme on peut croire au Coran, au Nouveau Testament, je ne sais quoi. Enfin, en fait, j'y croyais vraiment, j'y crois. Et donc là,
au souffle des ancêtres.
Voilà, le souffle des ancêtres, comme si c'était un texte sacré. Et c'est comme ça que j'ai un peu marqué. Chaque livre que j'ai écrit s'appuyait sur un poème et on pouvait Rose Végastrie dont on a parlé tout à l'heure, c'était La Quête, une de Jacques Brel, une chanson que ma mère adore et qu'elle chante souvent. Et en fait, j'ai juste semé des pistes, mais je crois que pas grand monde n'a trouvé. Mais bon, j'avais moins d'expérience. Et cette fois-ci, j'ai mis les choses de façon, explicite. Dès le départ, je dis, c'est ça, vous avez lu Les Souffles, vous avez lu Souffle de Birago Diop, vous avez lu le roman.
Et c'est ce qui nous accompagne, enfin qui accompagne Kim, le protagoniste principal du livre, ainsi que sa sœur Edith, durant tout le roman, ce dialogue avec ses ancêtres et cette lignée donc de femmes dont ils sont les héritiers, de souffrances.
De souffrance, mais aussi non, aussi de combat, parce que finalement, ce sont des femmes qui ont vécu des choses difficiles, mais qui se sont toujours battues et qui avaient des missions. En fait, c'était des herboristes, des avorteuses, des ensorceleuses, des prêtresses. Chacune, en fait, dans sa vie, a pris un rôle différent, mais elles ont été initiées. Elles ont été initiées au souffle. Elles ont cette
donc
capacité de vie,
exactement.
Des capacités
les viols, par exemple.
Malgré les viols, malgré la violence, la domination et la violence, en fait, c'est une lignée dont le dénominateur commun, c'est la résistance à l'oppression. Et ça aussi, ça fait partie, vous savez, la proclamation de Bastère, d'Elgrès, qui rappelle ce droit fondamental, la résistance à l'oppression. Ça aussi résonnait en moi, ces textes-là, qui pour moi sont des textes fondateurs que j'ai appris beaucoup trop tard.
Joula ça arrive, mes amis, premier joie arrive, mes amis, gardez pays en nous, mes amis. Joula ça arrive, mes amis, grand joula arrive, mes amis, la misère nous finit. Voilà, c'est pour nous. jouan nou rive me zami jou la sa rive me zami riches la se pou nou kade tout sa nou konstoui pou nou mem si yo eseye poison de nou sa kare de nou.
Et en fait, c'est un peu ce qui résume toute cette histoire aussi. C'est que nous sommes dans une société où on vit sous les lois de l'État français, avec les intérêts à défendre de l'État français, et où finalement on ne répond pas forcément à nos intérêts. Et c'est dommage parce que ça fonctionnerait plutôt bien pour l'État français s'il s'intéressait à nos intérêts. Ce que je veux dire, c'est que raconter notre histoire, connaître notre histoire, pouvoir nous appuyer sur nos textes fondateurs et les exploiter pour nous soigner, nous régénérer, construire, eh bien ça nous permettrait aussi d'avoir des rapports plus apaisés avec la situation que nous vivons. Ces textes-là, je les ai découverts quand j'avais plus de 20 ans. Je n'aurais pas eu le même rapport au monde si on m'avait permis vraiment, si on s'était organisé vraiment pour que je puisse les lire bien plus tôt dans ma vie.
Donc c'est ce que vous faites à travers votre métier de professeur, vos romans, vous faites partie aussi de diverses institutions concernant les littératures des Caraïbes.
Tout à fait, en fait la moitié du temps, moi j'administre une structure qui s'appelle Écriture théâtrale contemporaine en Caraïbes, avec Alfred Alexandre dont j'ai parlé tout à l'heure, aussi Bernard Lagier, Linda Mitram, voilà tout un petit groupe d'artistes, Ariel Blush. Et donc on accompagne les auteurs et autrices de théâtre de la Caraïbe dans leur carrière, dans la production de leurs œuvres, depuis l'écriture du texte jusqu'à sa production. Voilà, et ça me permet de vivre dans la littérature. Et le lien est très vite fait, puisqu'en fait, on fait beaucoup d'éducation artistique et culturelle, donc on est très présent dans les établissements scolaires.
Nadia Chanville, bon séjour dans l'Hexagone.
Bah oui, hein, c'est bien parti.
Les auditrices et auditeurs pourront vous rencontrer, vous écouter au Festival Atlantide, Les mots du monde à Nantes, festival de littérature qui a lieu du 2 au 5 mars au lieu unique et dans la ville. Et merci, on se quitte avec une chanson que vous avez choisie aussi. Alors c'est En Limier,
une lumière, oui, Jocelyne Béroir.
Que dire sur ce morceau?
C'est Jocelyne Béroir aujourd'hui, c'est notre monde d'aujourd'hui. C'est aussi un texte très inspirant et cette lumière-là, pour moi, c'est aussi cette lumière-là qui nous vient de ces mondes invisibles que peut-être l'Occident a cru écraser ou voudrait écraser, mais qui sont là. Nous vivons avec eux, et quand nous nous réconcilions avec eux, eh bien, on aperçoit cette lumière, elle nous guide. C'est toute notre histoire et toute notre force, en fait, qui nous fait lever la tête et avancer. C'est ce que je ressens quand j'écoute cette merveilleuse chanson.
À une prochaine fois.
À bientôt.
Merci.
Djélé, moi tout seul assis en cabane. Manque à songer, manque à tomber. Tout ça qui fait moi monter, descendre. Mais on la voit toujours dit, moi pas femme. Et puis pète la vie à vous apprendre. Qui bon est, c'est un bel fleur qui pomme. Les mots tombés, moi élevé, chercher, tiens. M'en pas les mentis, ça. Ça nous t'est pas fait. Si nous pas t'es jamais fait d'ailleurs. Et puis ouais, quand nous on l'autre manier. Passe, c'est même rivé, vol nous traverser. Et mon savon n'y a mis ton yeux. Même si c'est clair. Chela che rivecce.
Sur Nova, vous écoutiez la grande Jocelyne Berroir dans la chanson En Lignée avec la participation de Sista Tchad, un morceau choisi par notre invitée, l'autrice Nadia Chonville, venue avec son nouveau livre, roman Mon cœur bat vite, paru aux éditions Mémoire d'Encrier.
Neo G.